Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la web radio du lycée Van Dogen avec Angelina, Meluna et Iba moi-même pour vous accompagner.
Aujourd'hui, nous allons détruire votre enfance en vous parlant des contes originaux que la culture populaire a détournés.
Au départ, le conte est une tradition orale née de l'existence des veillées du soir. Mais ces histoires peuvent être bien plus troublantes que vous ne le pensez.
Avec l'appui des psychanalystes Bruno Bettelheim et Freud, qui apportent une explication à ces histoires, nous avons choisi d'étudier particulièrement les trois contes suivants, Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant.
Les contes que nous connaissons aujourd'hui ont été fortement influencés par les studios Disney. Ils sont réécrits à l'américaine, modifiant leur morale et leurs objectifs éducatifs. Et je crois que l'exemple le plus flagrant, c'est Blanche-Neige, n'est-ce pas ?
En effet, le premier conte réécrit par Disney est bien Blanche-Neige en 1937. À l'origine, dans Blanche-Neige, d'après Bruno Bettelheim, le complexe d'Oedipe est évoqué.
Le quoi ?
Le complexe d'Oedipe. Il s'agit de l'attachement érotique de l'enfant aux parents du sexe opposé.
Mais alors, Blanche-Neige serait donc amoureuse de son père ?
Oui, et sa belle-mère chercherait à éloigner sa rivale. Blanche-Neige trouve sa source dans la culture allemande et a été retranscrite par Grimm en 1812. Grimm nous raconte l'histoire du cheminement de la jeune fille de l'adolescence à l'âge adulte. La jeune fille est au début heureuse et insouciante, jusqu'au jour où le chasseur l'emmène dans la forêt. Elle entre alors dans une période de latence qui correspond à la phase se situant entre le complexe d'Oedipe et la puberté. Pour cette période, elle va être accompagnée par 7 nains, tous de sexe masculin dont la croissance est avortée. Ils ramènent Blanche-Neige à l'enfance.
Tiens, mais pourquoi avoir choisi le chiffre 7 ?
Ce chiffre a été choisi par les frères Grimm pour représenter les 7 péchés capitaux. Disney l'a gardé emblématiquement, mais a remplacé le message des péchés capitaux par des caractéristiques humaines.
Quand même, une jeune fille en compagnie de 7 hommes, c'est un peu glauque. Et si on revenait à la belle-mère, c'est quoi son rôle ?
Eh bien, dans le texte de Grimm, la belle-mère s'y prendra à 3 fois pour tuer Blanche-Neige. Une façon définitive de l'éloigner, avec un peigne, un corset et une pomme. Le peigne et le corset représentent la beauté et la pomme, la tentation.
Oh mais comme avec Adam et Ève, la femme est victime de la tentation et de la naïveté.
Exactement. Disney n'a gardé que la pomme, fruit de la connaissance de l'amour, de l'érotisme, dont la partie rouge représente la maturité sexuelle. La belle-mère a mangé la moitié saine de la pomme, offrant la partie empoisonnée à Blanche-Neige. La belle-mère a donc la connaissance saine.
Donc, en croquant la pomme, Blanche-Neige devient une femme, l'enfant qui est en elle meurt et les nains ne peuvent plus l'empêcher de devenir adulte.
Oui, et elle reste longtemps dans un profond sommeil avant de se faire réveiller par un prince charmant chez Disney. Tandis que dans Grimm, Blanche-Neige est réveillée par le choc du cercueil lorsque l'un des croque-morts trébuche en la transportant. Son réveil symbolise la renaissance et l'ascension à un niveau supérieur de maturité et de compréhension. Elle est prête à devenir adulte.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas vraiment la même version que dans Disney. Mais il a fait beaucoup plus fort avec Cendrillon qui, pour le coup, n'a plus grand chose à voir avec l'histoire d'origine.
Vraiment, à quel niveau ?
Eh bien, tout l'aspect oedipien du conte est pratiquement effacé et au bénéfice de la jalousie. Cette dernière est très présente dans les dessins animés à travers la belle-mère qui veut placer ses filles dans l'aristocratie avec un beau mariage. Dans la trace écrite rédigée par Basile au XVIIe siècle en Italie, l'objectif n'était pas vraiment d'éduquer l'enfant mais plutôt d'amuser la cour, avec des histoires sanglantes et légères. C'est donc un travail de réécriture qu'effectue Disney afin de rendre l'histoire audible pour les enfants américains.
Si c'est Basile, je m'attends à du sanglant.
Effectivement, dans le conte originel, le père devenu veuf se remarie et Cendrillon tue sa nouvelle mère sous les conseils de la couturière pour que cette dernière devienne la nouvelle épouse du père. Puis, se servant de ce crime comme un moyen de chantage, la belle-mère fait faire tous les travaux ingrats à la jeune fille.
Ah mais oui, elle est un peu tordue l'affaire. Du coup, on comprend bien que les relations entre Cendrillon et sa belle-mère sont tendues et que cette dernière refuse que Cendrillon aille au bal.
Et oui, alors Cendrillon fait appel pour l'aider à une bonne fée chez Perrault et à un arbre chez Basile et Frère Grimm. Cet arbre est en fait un arbre magique que Cendrillon a planté sur la tombe de sa mère et qu'elle arrosait de ses larmes. L'arbre lui donne une robe, ce qui lui permet alors de se rendre au bal où elle rencontre le prince qui tombe aussitôt amoureux d'elle. La fête dure 3 jours, durant lesquels Cendrillon repousse les avances du prince.
Wow, ça va vite dans les contes quand même. Et le consentement alors ? Surtout qu'on sait tous qu'il n'est même pas capable de la reconnaître. La preuve, il a dû faire essayer la chaussure à toutes les filles du village pour la retrouver.
Eh bien, figure-toi que ça pourrait provenir d'une tradition chinoise, les pieds de lotus. À l'époque, les mères bandaient les pieds de leurs petites filles pour qu'elles aient des pieds minuscules. C'était un signe de sensualité extrême.
Burk, ça devait être douloureux. Hein.
Et oui, elles ne pouvaient même plus marcher. La taille parfaite était environ 8 cm.
8 cm pour un pied ? Mais c'est pratiquement un pied de bébé, c'est horrible !
Rassure-toi, c'est pratique, aujourd'hui interdite. Maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Cendrillon. Pour empêcher Cendrillon de partir à la fin du troisième bal, le prince décide de verser de la poix sur les escaliers. Alors en quittant la fête, une de ses chaussures reste collée aux escaliers. Le prince décide de faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles de la ville. Lorsqu'il arrive à la maison de Cendrillon, la belle-mère veut que ses filles deviennent reines, alors elle s'arrange pour qu'elle arrive à mettre les chaussures. La première fille se coupe le gros orteil pour entrer en pantoufle.
Oh mais quelle imagination sanglante !
Je t'avais prévenu que c'était Basile, mais c'est pas tout. Le prince emporte la belle-sœur en croyant qu'elle était la bonne personne, mais il est alerté par les oiseaux auxquels Cendrillon parle. Il retourne donc dans la maison et demande à ce qu'une autre jeune fille essaie la chaussure. La deuxième fille de la marâtre se coupe le talon, mais le prince est à nouveau prévenu par les oiseaux. Il finit par insister et fait essayer la pantoufle à Cendrillon, à qui elle va à merveille. Lors du mariage, les colombes sur les épaules de Cendrillon mangent les yeux des belles-sœurs.
Donc si je comprends bien, dans cette histoire, on a un meurtre, de la mutilation et des énucléations. On s'amusait bien à la cour, je comprends pourquoi Disney l'a autant modifié.
Surtout que le film est sorti après la guerre. L'objectif était d'apporter de la joie et de l'amour, il fallait changer les idées en vendant du rêve. C'était le meilleur moyen de faire aimer des dessins animés. C'est la raison pour laquelle Disney a autant modifié ce conte.
À propos de rêve, moi je connais une princesse qui a fait rêver bien des petites filles. La Belle au bois dormant est la troisième princesse Disney, et cette fois-ci, le conte est mieux respecté.
C'est-à-dire ?
Eh bien avec La Belle au bois dormant, Disney a le choix des versions, puisque Basile, Grimm et Perrault en ont chacun écrit une. Disney prend celle de Grimm, qui est la plus romantique et la plus adéquate pour offrir du rêve aux enfants, et particulièrement aux petites filles, ce qui correspond bien à l'époque du dessin animé.
Oui, on connaît tous l'histoire de La Belle au bois dormant, la princesse qui est victime d'un mauvais sort, qui va tomber dans un sommeil profond avant d'être réveillée par les princes charmants. C'est bien romantisme américain ça.
En même temps, le modèle correspond à l'époque, une jeune femme, belle, qui reçoit tous les dons pour être une bonne épouse. Tandis que le rouet représenterait les menstruations, le passage de l'innocence à l'âge adulte comme dans Blanche-Neige, le réveil vient de l'homme qui lui offre la connaissance et le bonheur grâce au mariage.
Oui, donc comme les précédents contes, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Les Disney sont toujours inspirés de contes comme ceux de Grimm, Basile ou autres. Néanmoins, les messages resteront plus ou moins discrets et cachés, remplacés par des messages d'espoir, de courage et de valeur. Disney sort son dernier film inspiré d'un conte Réponse, sorti en 2009 avant de créer leurs propres histoires.
L'enfant dans n'importe quelle histoire de conte de fées s'identifiera au héros qui sera son repère et modèle durant l'histoire.
Celui-ci portera des valeurs comme le courage, la bienveillance, le sens du devoir, tandis que l'antagoniste sera représenté moins beau, laid, sous tous ses attraits. L'enfant va alors développer la notion de bien et de mal qui l'aidera à son développement.
De cette façon, il comprendra les messages d'éducation et des valeurs qui lui sont transmis.
Bon, malgré tout ça, ça reste chouette de lire des contes aux enfants, et même aux adultes. En espérant que cette émission vous aura intéressé, à bientôt pour un prochain podcast.